Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons des 10 et puis avec un guide qui vient de sortir pour les professionnels. C'est 10 en Poitou qui nous dira tout sur ce sujet en seconde partie d'émission. Nous parlerons aussi emploi puisque l'enquête besoin en main-d'œuvre vient de sortir en Nouvelle-Aquitaine et nous avons quelques éléments à vous partager. Mais tout de suite, on parle d'un sujet qui concerne notamment nos milieux ruraux, mais pas que. Et pour en parler, on accueille tout de suite Bruno Belin, sénateur de la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Suite à une réaction que vous avez eue en tant que sénateur, mais aussi en tant que pharmacien de métier, c'est une inquiétude sur les déserts médicaux. Vous avez peur qu'il y ait après déserts médicaux, que ce soit les déserts pharmaceutiques qui s'installent en milieu rural.
C'est pas une peur, ça va être une réalité qu'on constate déjà. Et ça fait 2 ans que j'alarme sur ce sujet. Et donc, la réalité, ça va être la disparition de milliers de pharmacies en France d'ici la fin de la décennie, puisque visiblement rien n'est fait, ni pour effectivement veiller aux licences et donc à la présence partout sur le territoire de pharmacie et puis encore moins à la formation de nos futurs consoeurs et confrères, parce que sans ceux-là qui nous remplaceront dans les quelques prochaines années, bien évidemment, il n'y aura pas de présence sur les territoires, puisqu'il n'y aura plus personne à mettre dans les pharmacies. C'est un constat que l'on fait déjà. Ça fait 18 ans que je parle des déserts médicaux et ceux-ci sont une réalité et chacun sait la souffrance qu'on a pour trouver un rendez-vous avec un médecin, un dentiste, un spécialiste. Demain, vous ne trouverez pas non plus de pharmacie pour trouver vos traitements.
Alors, à quoi c'est dû cette disparition des pharmacies petit à petit?
Alors, plusieurs facteurs. D'abord, un facteur donc de nombre de pharmaciens. Là encore, c'est la même erreur avec le numerus clausus. On veut former moins de professionnels de santé parce qu'avec l'argument que ça coûte moins de dépenses d'assurance maladie. Et puis, la profession de pharmacien, c'est très diversifié, notamment les besoins avec l'industrie. Et aujourd'hui, les jeunes diplômés préfèrent se retourner vers des postes où ils sont salariés, ce qui leur permet de pas forcément avoir de garde, de ne pas finir forcément aussi tard que l'on fait en officine, de pas avoir tous ces samedis travaillés. Et donc, l'industrie a happé de nombreux diplômés. La réalité, par exemple, la faculté de pharmacie de Poitiers, 50 diplômés sortiront en juin, 17 seulement se consacreront à l'officine. Vous voyez bien que c'est très insuffisant pour le secteur que couvre la faculté de Poitiers.
Et vous imputez...
Il y a d'autres raisons. Hein, oui. Donc ça, c'est la réalité dans le fonctionnement du parcours de l'étudiant, mais il y a aussi la réalité de l'entrée en faculté. Parcoursup, qui est une machine à perdre, qui est une machine à souffrance pour les familles et les lycéens en premier, qui fait n'importe quoi dans les affectations. Là encore, on a des tas d'exemples où on peut demander 10 choix et on se retrouve dans un 11e sans l'avoir voulu. Et bien là, si vous voulez aujourd'hui faire des études de pharmacie, je vous mets au défi de trouver ce qu'il faut faire dans Parcoursup pour pouvoir arriver dans la filière de votre choix. C'est pas possible, il y a eu la LAS, la PASS, personne ne s'y retrouve, on ne sait pas la réalité, on décourage, en tout cas on n'encourage pas à faire ce métier indispensable, on l'a bien vu dans les 4 dernières années.
Et si vous n'imputez pas la responsabilité des déserts médicaux au gouvernement actuel, vous pensez que ce sera en partie de sa faute si on arrive à des déserts pharmaceutiques?
Ah ben pas en partie, totalement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, pour déjà l'alerter sur effectivement les besoins ou les parcours qui ne sont pas suffisants dans les facultés, ça relève totalement de sa compétence. C'est à elle de mettre de l'ordre là-dedans et de donner des instructions au président de l'université sur les besoins en tel ou tel nombre de diplômés par secteur, par région. Vous savez, la pyramide des âges, on la connaît, la démographie est une science exacte. On sait le nombre de pharmaciens qui arrêteront dans les 5-6 prochaines années. On n'en forme pas suffisamment. C'est de la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur de le faire. Et puis, c'est la responsabilité du ministre de la Santé aussi de savoir comment s'entendre avec les différents acteurs de la profession pour trouver des accords. Aujourd'hui, on voit des fusions de licences. Les fusions de licences, ce sont des pharmacies qui ne trouvent pas suffisamment de repreneurs et donc qui sont rachetées. Ça fait de plus en plus de grosses pharmacies en chiffre d'affaires qui deviennent donc inachetables pour des jeunes pharmaciens. Et donc, on continue les fusions, on continue la financiarisation évidemment d'un niveau élevé. Et bien évidemment, le ministre de la Santé a une totale responsabilité là-dessus. Il faut qu'il apprenne le métier, peut-être, mais en tout cas, il connaît très mal ce secteur. Et on voit bien qu'il a, de toute façon, qu'il est dans l'absence totale de réponse à un poste qui demande à la fois de la compétence et de la connaissance, et il n'a ni l'un ni l'autre.
Alors, vous proposez différentes solutions. Premièrement, arrêter les créations de pharmacies. Ça peut paraître un peu contradictoire, peut-être.
Et oui, parce que moi, je parle d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est permettre à ce que chacun trouve à 10 minutes de chez soi une pharmacie. Or, aujourd'hui, les dépôts de création, elles ne sont pas en milieu rural. Elles vont être là où il y a les centres commerciaux, là où on développe des zones commerciales. Regardez autour de Poitiers, à Chasseneuil, ce qui a pu se passer. La pharmacie s'est déplacée du centre-bourg pour aller sur le secteur de la zone commerciale. Donc, il faut effectivement que les diplômés qui sortent puissent se consacrer à la reprise des officines existantes et non pas à fragiliser un système en augmentant le nombre d'officines, ce qui n'augmentera pas évidemment les chiffres d'affaires des officines, ce qui n'augmentera pas la rentabilité des officines et surtout ce qui fragilisera le maillage rural et la présence des pharmacies partout sur le territoire.
Alors la deuxième solution que vous proposez, c'est de sauver les licences. Peut-être qu'il faut rappeler à nos auditeurs et auditrices comment ça fonctionne, cette histoire de licence pour les pharmacies.
Bien sûr, parce que c'est effectivement quelque chose de complexe. On n'installe pas une pharmacie comme on le souhaite. Il y a des ratios de population et il y a des officines qui historiquement avaient été créées même au 19e siècle, à l'époque où ces règles n'existaient pas. Et donc vous avez à peu près sur les anciens chefs-lieux de canton ruraux partout des anciennes pharmacies. C'est-à-dire des pharmacies qui ont été créées dans une période où il n'y avait pas les mêmes règles. Et ce sont des officines qui peuvent paraître fragiles. Si elles ne sont pas reprises ou s'il n'y a pas de successeur dans des situations extrêmes, on l'a vu l'été dernier à la Trinité avec le décès du titulaire de la pharmacie, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de gérance après décès, d'organiser, s'il n'y a pas de reprise dans l'immédiat, l'ARS, l'Agence régionale de santé, écrase la licence, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Or, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus en recréer derrière. Et c'est pour ça que vous avez eu à Angles-sur-Langlin, à La Vosso, à la Tussarini, des pharmacies qui n'ont pas été reprises, dont les licences ont été écrasées du jour au lendemain. Il ne pourra plus en avoir d'autres. C'est donc un service de santé de proximité qui disparaît. Vous savez, aujourd'hui, la pharmacie, c'est le seul lieu de santé où vous pouvez avoir une réponse sans rendez-vous. Et souvent gratuitement. Et donc, voilà, on est en train de ne pas réagir. Il y a une absence totale d'écoute sur cette question-là. Et les pharmacies, notamment en milieu rural, vont disparaître. Elles sont déjà en souffrance du fait qu'il y a de moins en moins de médecins. Et donc, le patient, et on ne peut pas lui en vouloir, suit évidemment là où il peut trouver un médecin. Eh bien, nous avons une disparition en milieu rural d'un service indispensable à mon sens.
Alors vous avez cité plusieurs cas dans le département. Est-ce que il y a une partie du territoire qui est plus fragile qu'un autre dans la Vienne?
Alors c'est toute la périphérie du département puisque le centre et l'axe Châtellerault-Poitiers évidemment a une démographie, un réseau commercial plus dense parce qu'il y a aussi évidemment plus de médecins, mais on voit bien que la périphérie est fragile et c'est à peu près le constat dans tous les départements, c'est-à-dire qu'on a un milieu urbain où si si 2, 3, 4 pharmacies disparaissent, c'est pas grave, puisqu'il en reste une trentaine derrière. Et puis vous avez un milieu rural où vous avez des pharmacies qui disparaissent. Et donc, c'est autant de réponses en moins. Il y a moins de pharmacies. Ça veut dire aussi que ces pharmacies qui sont en place participent plus à la permanence des soins. On fait, moi je fais plus de 50 nuits de garde par an, 56 nuits exactement. Et bien, voilà, à un moment donné, on fragilise le système. Donc, il faut impérativement être attentif à un équilibre. En milieu rural, vous avez en plus une population plus âgée, moins mobile, et on va leur demander demain de faire plus de kilomètres.
Oui. Et alors, c'est une question que vous allez aborder au Sénat. Il y a un projet de loi ?
Il y a eu un projet de loi de déposé permettant de faire tout et n'importe quoi, puisque ça, vous savez, c'est le principe du populisme, c'est qu'on répond, on fait ce que les gens ont envie d'entendre. Et donc, il y a eu un projet de loi de déposé sur une niche permettant la création dans certains secteurs de pouvoir faire des pharmacies à n'importe quel seuil de population sous prétexte que c'est une station touristique, une station en montagne vous savez, c'est le problème des niches qui sont votées par des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de pharmacies en France. Nous sommes passés de 22 000 officines à 20 000. La démographie pharmaceutique est en baisse, vieillit, la réalité est là. Si on continue comme ça, si on continue à faire ce qu'on est en train de faire actuellement, et je vous parle même pas de la pénurie de médicaments parce qu'on pourrait y passer l'après-midi, si on continue ça, je vous promets que d'ici 2030, effectivement, il y aura des territoires sans pharmacie. Il faudra aller sans doute faire plusieurs dizaines de kilomètres avant de trouver le traitement dont on a besoin. Et quand on pourra plus faire ça, vous aurez tous ceux qui ont envie de passer au stade supérieur, c'est-à-dire les grandes surfaces, qui ont déjà tué comme ça les boulangers, les stations-service, et qui seront prêts demain matin à tuer les pharmacies.
Un grand merci Bruno Belin, donc sénateur de la Vienne, et vous-même pharmacien, d'être intervenu dans Séquence Midi pour alerter nos auditeurs et auditrices sur cette menace donc de désertification pharmaceutique. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. On continue en musique. Je vous propose de découvrir ce Colombien, Julian Mayorga, et sa cumbia pop psychédélique.
puissance de professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
La semaine dernière, France Travail Nouvelle-Aquitaine présentait son enquête BMO besoin en main-d'œuvre. Elle était introduite par Alain Mouny, directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Enquête qui a 23 ans cette année et qui donne les résultats des besoins de main-d'œuvre des entreprises. Et à ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement les entreprises qui ont répondu, puisque le taux de réponse est de 23%, c'est-à-dire ça représente globalement près de 40 000 entreprises qui ont répondu à cette enquête. Et comme je dis très souvent, nous avons besoin des entreprises comme les entreprises ont besoin de France Travail pour améliorer notre performance vis-à-vis des entreprises, mais surtout répondre à leurs besoins, améliorer nos dispositifs et puis encore mieux accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi vers les entreprises qui recrutent, vers les secteurs qui recrutent. Et c'est la raison pour laquelle cette enquête est véritablement nécessaire.
Si jamais vous êtes passé à côté de l'information, hein, France Travail, c'est le nouveau Pôle emploi. Donc c'est sa collègue Caroline Sajot qui a pris ensuite la parole pour présenter qu'est-ce que cette enquête besoin en main-d'œuvre et à quoi elle sert.
Donc chaque année, France Travail réalise une enquête de grande ampleur. Elle interroge au niveau France un peu plus de 1,7 million d'entreprises en fin d'année pour connaître leurs intentions d'embauche sur l'année à venir. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont un peu plus de 161 000 entreprises qui ont été interrogées. Cette enquête, elle nous est très utile, elle permet de décrire les besoins de recrutement des entreprises par métier, par secteur d'activité et sur un territoire donné. Ce qu'on a pu constater lors des éditions précédentes, et notamment l'édition 2023, on constate que 7 entreprises sur 10 qui avaient déclaré embaucher l'ont réellement réalisé, ont vraiment réalisé des recrutements. Et 4 entreprises sur 10 qui n'avaient pas prévu d'embaucher ont finalement réalisé des recrutements sur l'année 2023.
Elle nous a ensuite présenté les principaux résultats de cette enquête.
Cette année, ce qu'on voit, c'est que 30% des établissements de la région Nouvelle-Aquitaine envisagent de recruter, ce qui correspond à peu près 313 000 projets de recrutement sur l'année 2024. Parmi ces projets, 59% d'entre eux sont des projets non saisonniers et donc 41% des projets saisonniers. On constate une légère baisse cette année du nombre de projets de recrutement, qui est de l'ordre de 7% pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau France, la baisse, elle est un peu plus prononcée, elle est autour de 8%. Malgré tout, vous voyez qu'on a quand même un volume important de projets de recrutement sur l'année 2024. Alors, pourquoi une légère baisse, hein, c'est en mettre aussi en lien avec la conjoncture économique qui a été un peu moins favorable sur la fin d'année, notamment 2024. On constate un ralentissement sur les recrutements, on a vu aussi que l'emploi intérimaire était plutôt en baisse sur l'année 2023. Vous le savez, le taux de chômage a légèrement augmenté, ainsi que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. On voit que le nombre de projets de recrutement, bon, bien sûr, il varie d'un département à l'autre. Donc, pour la Creuse, on a à peu près 3 900 projets de recrutement et le département où il y a plus de projets de recrutement, sans surprise, c'est celui de la Gironde avec près de 93 000 projets de recrutement. En termes de taux d'établissement recruteur, c'est pareil, il y a des variations sur les 12 départements. Ce taux de recrutement varie de 26% dans le département de la Haute-Vienne à 34% dans le département de la Charente-Maritime. Maintenant, si on s'intéresse au secteur d'activité. Donc, en termes de projet de recrutement, et c'est bien sûr à mettre en lien avec la structure économique hein, de la région, et même j'ai envie de dire même de la France, on voit que pratiquement 6 projets de recrutement sur 10 sont liés à des services, hein, que ce soit les services aux entreprises ou les services aux particuliers. Notamment dans les services aux entreprises, on peut dénombrer un peu plus de 8500 projets de recrutement dans le secteur du transport. Concernant les services aux particuliers, on a des forts projets de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, un peu plus de 47 400. Mais également dans le secteur de la santé et l'action sociale, 42 600 projets de recrutement pour l'année 2024. Ensuite, on a une part importante de projets de recrutement en lien avec l'agriculture et aussi l'industrie agroalimentaire, un peu plus de 61 000 projets de recrutement. Dans le commerce aussi, pratiquement 34 000 projets de recrutement. Dans la construction, un peu plus de 19 000 projets de recrutement. Et enfin, dans l'industrie manufacturière, on dénombre un peu plus aussi de 17 000 projets de recrutement.
Et enfin, on termine par ces chiffres de France Travail et donc de Caroline Sageot sur les besoins en main-d'œuvre par métier.
Je vous propose le top 15 des métiers qui recrutent le plus sur l'année 2024. Donc classiquement, et surtout en lien, encore une fois, avec la structure économique de notre région, on voit que les premiers métiers qui sont le plus recherchés sont des métiers qui sont en lien avec le secteur de l'agriculture et pour le coup qui sont des projets de recrutement très saisonniers. Ensuite, on constate aussi des besoins dans l'hôtellerie-restauration. Hein. La Nouvelle-Aquitaine, comme vous savez, est une région très touristique, donc de forts besoins dans l'hôtellerie-restauration, sur les métiers du type serveur ou cuisinier. Et enfin, des besoins aussi importants sur des secteurs en tension, et notamment le secteur de la santé et de l'action sociale. Donc des besoins de métiers autour des infirmiers, des aides-soignants, des sages-femmes, des aides à domicile.
Et tout de suite, on retrouve dans le cadre de notre partenariat avec l'UDAF, l'Union des associations familiales, l'association 10 en Poitou, représentée par Vanessa Albert. Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la sortie d'un nouvel outil pour les professionnels de santé.
Oui. Alors, en novembre dernier, je vous avais parlé de la nouvelle stratégie nationale pour les troubles neurodéveloppementaux. Donc, je vous rappelle un peu ce que c'est que les troubles neurodéveloppementaux. Ça concerne les troubles 10, donc la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie et d'autres encore. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'autisme et les troubles du déficit intellectuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en place d'un guide de repérage des troubles neurodéveloppementaux pour les moins de 7 ans, à destination des médecins généralistes et des pédiatres. Comme on le sait tous, plus tôt les enfants sont diagnostiqués, plus l'ensemble des professionnels impliqués pourra contribuer à modifier durablement et positivement leur trajectoire de vie. Ce guide s'appuie sur la littérature scientifique et les outils existants et validé par la Haute Autorité de Santé, l'AS. Ce guide peut être rempli sur un temps de consultation normal par le médecin généraliste. Il est composé de plusieurs domaines, dont la motricité globale, donc le contrôle postural, la locomotion, la motricité fine, donc la perception, la coordination et la praxie, le langage, la sociabilisation et à partir de 4 ans, la cognition, donc la mémoire, le raisonnement, l'attention et la prise de décision. Il est également composé d'éléments d'observation d'ordre général, donc savoir s'il y a des facteurs de risque dans la famille, savoir s'il y a une régression des compétences acquises ou au niveau du comportement sensoriel et émotionnel particulier. Il est aussi basé sur l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que ça marche par tranche, de 6 à 11 mois, de 12 à 17 mois, 18 mois et ainsi de suite, jusqu'à l'âge des 7 ans. Par exemple, pour les enfants de 18 à 23 mois, l'enfant marche sans aide. Donc ça, c'est à noter si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut orienter en fait les enfants vers, les parents pour faire des bilans. Il y a aussi la liste des bilans qui ont déjà été faits par des professionnels de santé, ORL, ophtalmologue, orthoptiste, orthophoniste, kiné, ergothérapeute, psychomotricité, neuropsychologie et psychologie, et puis certains cliniques comme les troubles du sommeil ou les troubles alimentaires. Une fois ce guide rempli par votre médecin traitant, celui-ci vous dirige vers une plateforme de coordination et d'orientation si cela s'avère nécessaire. Et du coup, cette plateforme permet d'aider les parents donc à dire il faut un bilan ergo parce que pour telle et telle raison, et donc vous amener vers des professionnels de santé. Et ça permet aussi s'il doit y avoir une prise en charge par un hôpital de jour. Donc les grilles de ce guide seront incorporées au carnet de santé, ce qui est pas mal. Et voilà. Tout ce que j'en sais sur ce guide de repérage précoce pour les diagnostics troubles 10. Cela n'empêche pas que les instituteurs qui sont en première ligne pour détecter les difficultés d'apprentissage pourront alerter et justement orienter les parents vers les médecins traitants.
Merci beaucoup pour cette nouveauté. Pour vous, au niveau de 10 en Poitou, c'est une avancée ?
Oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cet outil. Donc, 10 en Poitou, je le rappelle, une association qui vous accueille si votre enfant souffre de troubles 10. Merci beaucoup, Vanessa Albert. Demain, dans le Café de la Presse, on parlera Europe. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Bernard Matignon fête ses 40 ans de peinture au Bloc. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 mai, vous pourrez voir son exposition entre 15h et 19h. Il y aura un vernissage ce soir à 18h et puis ensuite une rencontre littéraire le 13 mai et enfin un concert le 15 mai. Donc c'est au Bloc, rue Saint-Grégoire à Poitiers. Les Européens votent Europe Direct et Sauvons l'Europe anime une permanence à l'Hôtel de Ville de Poitiers pour vous informer. C'est de 13h30 à 17h. Donc vous pourrez parler élections européennes et ils pourront vous accompagner dans votre inscription sur les listes électorales. C'est salle 105 à l'Hôtel de Ville de Poitiers. Soirée jeux de société à l'auberge de l'abbaye de Noyers-Maupertuis. C'est à 18h30 avec l'association Poitvine. On se fait la belle. Ils pourront vous expliquer tous les jeux. L'entrée est libre jusqu'à 22h30. Concert par les ateliers Syrinx. C'est à 19h au local avec donc les ateliers musicaux avec The Blender. C'est du rock. Les ateliers pop rock et rock acoustique qui se succéderont pour vous offrir une belle soirée musicale. L'entrée est libre sur Pulsar à 17h, c'est à ta santé, la dernière de la saison, on va parler médecine douce. À 19h, c'est Diva, 20h Metal Fury et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Cortex pour la réalisation technique. Je vous propose de découvrir Jujitsu et ce titre Sator à repos, c'est de l'afro-techno Singeli. Bon après-midi, à demain.